Certainement, je me répète sans cesse, mais ô combien la parole de Dieu est riche en enseignements de vie. C'est impressionnant. Surtout quand nous prenons le temps de la méditer chaque jour. Et même chaque jour, les mêmes textes. Je m'arrête plus longtemps sur ceux du dimanche, bien évidemment. D'abord, cette interpellation, ce questionnement du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Grosse question, pleinement d'actualité. Quand on voit tout ce mal, tout ce fatras de toutes choses à travers le monde, combien on a envie d'être découragé et combien derrière cela, mais Dieu, que fais-tu? Il faut oser la poser, cette question. Et puis, on sait que le Seigneur nous demande d'être en mission, il nous demande de créer du bien. Il y a le fameux Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous avez fait. Donc, et on peut même s'en réjouir quand on va aller dans son royaume. Donc on peut se réjouir de participer à l'œuvre de Dieu en voyant tout ce que nous faisons bien petitement, mais quand même concrètement parfois, de bien autour de nous. Mais aujourd'hui, l'évangile est impressionnant. Il est radical. Je n'aime pas du tout la traduction actuelle de la liturgie. Car le dernier verset de ce jour, après une petite parabole, les serviteurs disent « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Or, tous les autres traductions, la Tob, la Jérusalem et ainsi de suite, qui sont plus proches du texte, nous disent « Nous sommes des serviteurs inutiles. » Waouh! Je ne supporte pas que la liturgie veuille adoucir la parole de Dieu pour qu'elle soit un peu mieux entendable, un petit peu mieux acceptable pour les braves petites gens. Et que comme si on prenait les gens comme pour des neuneux, qu'il ne faut pas trop les heurter. Jésus, il heurte. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Waouh ! Qu'est-ce qui vient nous toucher là ? Il vient nous toucher le fond. On oublie trop souvent que le Christ est venu pour nous sauver. Il vient nous sauver de quoi? De la mort. Mais pas de la mort physique. Celle-là, on va dire, on s'en fout. La mort physique, c'est simplement un processus naturel. Je dois mourir pour aller sur l'autre chemin. C'est comme si quelqu'un, un enfant de la maternelle ne voulait pas mourir à la maternelle pour... il voudrait ne pas mourir à la maternelle parce qu'il aurait à passer au primaire. Eh ben non, tu vas passer au primaire, garçon, tu vas grandir. La mort, c'est ça. Je me prépare ici pour aller ensuite dans la grande école, l'école de Dieu. Mais Jésus, là, il vient nous parler d'une autre mort, et une mort qu'il faut mener. Il est venu pour un combat. C'est ça qu'on oublie trop souvent. On l'a réduit à une petite sagesse gentillette. Il vient nous casser quoi? Parce que de fait, bien souvent, et moi le premier dans mes interventions, j'invite beaucoup de gens qui ont souvent une très mauvaise image d'eux-mêmes, ils se déprécient, ils ne savent pas regarder ce qu'il y a de bien en eux. Je les invite sans cesse à regarder qu'est-ce que tu as fait de bien, et est-ce que tu es capable de rendre grâce de ce que tu as fait de bien? Et il faut rentrer là-dedans. Ça fait partie de notre participation à l'œuvre de salut du Seigneur, il faut aller jusque-là. C'est pas simplement « j'ai été gentil avec le voisin ». Non, je participe à l'avènement du royaume de Dieu. Je participe à ce que j'espère au mieux, une bonne entente entre nous. Tout ça, c'est beau et c'est bon, et il faut y aller à fond. Mais Jésus, à travers cet évangile, vient nous dire autre chose de plus puissant encore. Hier, dans l'évangile, il nous disait aussi, c'est les 72 disciples qui reviennent de mission, et il dit bien, je voyais Satan tomber du ciel. Donc il y a un réel combat. Et les missionnaires que nous sommes tous, Hein, encore le pape François le redisait dans une de ses encycliques. Tout baptisé est missionnaire, quel que soit son rang, sa capacité intellectuelle ou quoi que ce soit sa fonction. Tout baptisé est un missionnaire. Donc le retour des 72 disciples vient de dire que ils ont fait les démons nous étaient soumis, et Jésus va dire, ne vous réjouissez pas tant, c'est-à-dire qu'on a quand même le droit de s'en réjouir, mais ne vous réjouissez pas tant que les démons vous soient soumis, que vos noms soient inscrits dans le cœur de Dieu. Ça, c'est puissant. C'est pour cela que tu peux être serein. C'est pour cela que tu peux baisser la pression intérieure. Ce n'est pas, en final, ce n'est pas tant ce que tu fais qui va te justifier auprès de Dieu. C'est parce que ton nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Et donc là, il nous dit, en final, nous sommes des serviteurs inutiles. Waouh! Moi qui cherche tant à me faire remarquer, à faire des bonnes choses, à me faire apprécier, c'est vu par personne. Waouh! Je trouve que cet évangile, cette parole, ce petit verset, et d'une très grande libération. Je peux m'arrêter de me débattre de tous les sens pour essayer de me faire accepter, pour essayer de me faire aimer. J'ai à avancer sur un autre chemin. Bien évidemment que je vais faire des bonnes choses, bien évidemment que c'est bon de le vivre. Mais ce n'est pas une récompense, c'est la nourriture même, j'ai envie de dire. Je n'ai pas à attendre des autres qui trouvent que ça soit bien, même si c'est bon de l'entendre, et que aussi je peux en avoir besoin. Mais le Seigneur m'invite à aller plus loin, pour être libéré de la pression qu'essaye de nous foutre le mal. Quand il essaye de te faire croire que tu n'es vraiment pas à la hauteur, que tu ne vas pas y arriver, va te faire voir. Dehors, nous dit Jésus quand il parle au mal. Tais-toi dehors. C'est une fois encore la lettre de Saint Paul aussi qui est très riche d'enseignements. Il dit à Timothée, ravive le don gratuit de Dieu. Et ce don, il est en toi. Il nous dit bien que ce que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et que nous n'avons donc pas à avoir peur de témoigner de notre Seigneur. Le dernier verset de ce passage à Timothée, garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Quelle richesse! Est-ce que nous sommes capables de regarder la beauté de notre credo? Est-ce que nous sommes capables de prendre une heure de méditation sur chacune des phrases du credo, et même les demi-phrases entre chaque virgule, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel, là il faudra déjà toute une méditation, et de la terre, une toute autre méditation. Et il faudrait prendre plutôt le Nicée-Constantinople, qui développe tellement la beauté de notre foi. Un peu complexe, on peut l'accorder, mais tellement bonne. On le débite beaucoup trop vite dans nos, dans nos assemblées. Alors que c'est la rosée du matin qui vient rafraîchir tout notre élan de foi, justement. Car la première question qui a été posée à Jésus, ce sont les apôtres qui lui demandent « Augmente en nous la foi ». C'est toujours cette question fondamentale. Quelle est ma foi ? Combien de fois Jésus va s'émerveiller de la foi de non-juifs ? Car ils s'y investissent totalement dans leurs demandes. Ils s'y abandonnent. Ils se laissent mener. Dans un monde qui est tellement enfermé par des lois, par des intérêts personnels, privés et tout ça, demandons cette grâce vraiment d'être renouvelée dans notre foi. Regardons-la, prenons le temps, encore une fois avec le credo ou n'importe quel passage d'évangile, pour découvrir qui est celui en qui nous croyons. Je crois en Jésus, qu'est-ce que je connais de lui ? Qu'est-ce que je suis capable de mettre par écrit pour raconter quelle est sa vie ? Ce qui me touche d'une manière personnelle ? Son enseignement qui m'a apporté un éclairage ? Que suis-je capable d'en dire aujourd'hui ? De quelle manière suis-je capable d'en parler le plus tranquillement possible, quoi ? Je n'ai pas à convaincre les autres, j'ai juste à leur partager la joie que j'ai d'être aimé de Dieu et de tenter de lui rendre en partie. Parce que l'amour n'est que communication. Je donne et je reçois, ça va sans cesse dans les deux sens, le véritable amour. Et c'est pour cela qu'on peut même aller jusque dans les souffrances. Là aussi, Paul lui dit, il dit, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. C'est impressionnant, ça aussi. Pour annoncer l'Évangile, je sais que j'ai à passer par des souffrances. J'ai presque envie de dire, ne nous plaignons pas d'être en souffrance puisque nous sommes en train d'évangéliser. Quand je suis malmené, quand je suis critiqué, quand je suis rejeté, béni soit Dieu. Ça veut dire que je fais œuvre de Dieu. Quand je suis dans le monde du mal, lui, il ne fait rien. Il est très, très tranquille parce que je suis en train de m'éloigner de Dieu. Offrons nos souffrances au Seigneur, dans le silence de nos cœurs. À chaque fois que nous célébrons un martyr, unissons-nous à lui, à ses souffrances. C'est Saint Vincent qui le dit aux filles de la charité. Bon, un vrai martyr, ça ne dure que quelques instants, il a sa tête tranchée en deux-deux. Mais la fille de la charité qui va chaque jour au service des pauvres, à prendre soin des plaies béantes à des malades ou des blessés, aller voir le pauvre orphelin qui n'arrête pas de pleurer, c'est des martyrs au quotidien, dit-il. C'est participer à l'œuvre de Dieu, c'est participer à sa passion. Et ça peut durer toute une vie. De quelle manière ce que je vis de douloureux, je le transforme en action de grâce pour participer à l'œuvre du salut qui passe par la croix, qu'on le veuille ou non. On aimerait que non. Jésus lui-même le dit. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Demandons cette grâce d'être vraiment unis à notre Sauveur et à notre Dieu.